Culture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Entre l'Italie et la France est le thème de cette émission. En effet, nous accueillons en studio le directeur des éditions Liber Faber, installé à Monaco. Ces éditions ont été créées en 2011 et il s'agit de Monsieur Carlo Sonnino. Bonsoir Carlo.
Bonsoir à vous.
Il est accompagné de Madame Katrina Sonnino, qui a fait un très beau livre. Bonsoir, bonsoir. Katrina. Et d'une autre femme écrivain, Alessandra. Vous allez nous présenter aussi votre livre tout à l'heure. D'accord? Les éditions Liber Faber, créées en 2011, donc, jouent un rôle très important, en particulier entre l'Italie et la France. Nous allons le découvrir. 11 collections, plus de 100 ouvrages à ce jour, et des projets audacieux dont nous parlerons dans la deuxième partie. Une très belle phrase en français, en italien et en anglais, au début de votre site, je la cite pour les lecteurs, « Dans la lecture solidaire de l'homme qui se cherche, lui-même a quelques chances de se rencontrer. » Et j'ai trouvé cette phrase très belle, car il y a à la fois dans l'homme, dans la lecture solitaire, mais solidaire. Il y a les deux à la fois, c'est un beau clin d'œil. Alors, Carlo, avant d'écouter l'un de vos auteurs, Alain Roussel, présentez-nous très brièvement votre projet qui est quand même très original.
Oui. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors, notre choix est celle de plusieurs thèmes, une multi-thème culturel en plusieurs langues. Nous souhaitons publier des livres d'auteurs déjà affirmés et des débutants. Surtout, les ambitions d'Hilbert Faber sont la promotion et la diffusion de la culture européenne à travers le monde. Et ça, par la langue italienne, française, anglaise, et nous avons déjà réalisé pour les enfants un livre de contes pour enfants en quatre langues aussi, le monégasque.
Voilà, c'est déjà quelques perspectives. Alors effectivement, ce livre « Amandine et l'Empire des anges » qui est publié en anglais, en italien, en monégasque et en français est absolument merveilleux à tout point de vue. Je le recommande déjà aux lecteurs, mais on en reparlera tout à l'heure. Nous allons commencer peut-être maintenant à écouter Alain Roussel, qui est un de vos auteurs, qui est programmé pour 8 ouvrages, qui en a publié 3, je crois. Il est né en 48, après une formation d'ingénieur et un doctorat en électronique, il se consacre à l'étude des traditions religieuses. Il voyage beaucoup dans le monde, rencontre nombreuses, des savoirs très variés, et il décide de rassembler ce qui est épars. D'où son projet de 8 ouvrages et 3 parus. Son approche en particulier du symbolisme et de la franc-maçonnerie est particulièrement intéressante et originale. Écoutons-le. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors Alain, vous avez un parcours absolument passionnant, puisque dans votre vie, il y a deux grands pôles, un pôle que vous appelez vous-même rationnel et un pôle qu'on pourrait presque appeler découverte de l'humanité. Le pôle rationnel a été accompli par un BEPC jusqu'au doctorat comme ingénieur. Et le pôle humanité s'est fait inévitablement dans le voyage, la découverte de l'Afrique, la découverte de l'Inde et une passion pratiquement pour le spirituel qui s'est concrétisé et matérialisé à un moment donné dans le cadre de la franc-maçonnerie, non pas comme réseau, non pas comme agape, non pas comme m'as-tu vu, mais vraiment comme réflexion spirituelle au sens le plus beau du terme. Vous avez déjà publié chez Liber Faber 3 ouvrages et vous envisagez publier la gamme de tout ce que vous avez écrit. Nous allons en parler dans un instant. Ce qui m'a impressionné dans l'entretien que nous avons eu avant cette émission, c'est votre intérêt pour le spirituel. Alors, nous ne savons pas si Malraux a dit cette phrase fameuse « Le 21e siècle sera spirituel ou pas ». Ce que je constate autour de moi de plus en plus dans tous les milieux, c'est la quête du spirituel et la découverte du spirituel. Alors, j'allais vous poser une première question. Cette conception du spirituel, que vous apporte-t-elle par rapport à votre rôle d'ingénieur sur lequel vous auriez pu rester?
Soit, mais si vous voulez, il y a une approche du monde physique et, par exemple, le monde des sciences et des techniques qui me permettent d'appréhender le monde qui m'entoure. Bien. Mais en fait, en l'homme, il n'y a pas que la matière, il y a aussi l'esprit. Et ce que l'on appelle spiritualité, il me semble que c'est une c'est approcher ce qui, dans l'homme, permet de le relier. Le relier à qui et à quoi ? Eh bien, ma foi, il y a une recherche vers le divin, puisque l'homme, par nature, entrevoit très souvent une puissance qui lui est supérieure et à laquelle il cherche à accéder. Et pour cela, il y a des traditions religieuses, donc des dogmes établis, qui sont autant de voies qui, au niveau exotérique, lui permettent d'accomplir des rituels, mais avec une contrepartie, c'est-à-dire qu'on lui promet un paradis, peut-être, s'il s'est conduit correctement. Il me semble que cette démarche, même si elle est fort intéressante, n'est pas suffisante. Au-delà de l'exotérisme, il y a l'ésotérisme d'une tradition. Et cet ésotérisme, symboliquement, c'est aller au cœur des choses. Et au-delà donc de pratiques, de rites qui permettent à l'homme de se satisfaire un petit peu. Donc il a accompli son devoir, et c'est très bien comme ça. Mais ce n'est pas automatiquement une démarche introspective, alors que l'homme peut aller plus loin. Il y a un certain nombre donc de savoirs qui sont un peu caché, le terme de ésotérique étant synonyme d'une certaine manière de caché. On parle également dans d'autres traditions d'occultisme, d'hermétisme, pour ce qui est entre autres de l'alchimie, plus spécifiquement de l'alchimie. Et cet ésotérisme, eh bien, pour arriver à le découvrir, il y a un certain nombre d'outils qui sont proposés, entre autres le symbolisme. Le symbolisme, c'est donc une approche qui permet de mettre en relation donc une réalité tangible avec une autre qui est cachée. Et donc ça permet dans des textes d'accéder justement à des vérités principielles auxquelles on n'a pas accès dans le monde, je dirais, profane. Profane étant par opposition au sacré. Le sacré permet justement d'accéder à toutes ces valeurs qui sont les plus importantes pour l'humain. Justement, le sacré définit pour chacun de nous ce qui est le principal, ce qui est le plus important. Donc on parlera par exemple d'un objet sacré lorsque dans un rituel, il permettra d'accéder justement à ces vérités premières, ces vérités primordiales. Et, par exemple, dans un rituel, si je prends l'exemple d'un rituel maçonnique, il se passe quoi ? Eh bien, tout simplement, on va mettre un mythe, on va le réactiver. Et chacun des participants à cette cérémonie, puisque donc, si l'on définit une tenue maçonnique comme une cérémonie, eh bien, chacun des participants va devenir donc acteur de ce mythe. Et ce n'est pas donc quelque chose de passif. Et dans un temps sacré, un espace sacré, puisque dans un rite, on commence déjà à déterminer un endroit où le sacré va pouvoir se révéler. Donc c'est ce qu'on appelait donc dans les temples gallo-romains le fanum. Donc profanum, c'est ce qui est avant cette enceinte. Et alors que l'initié, entre guillemets, c'est celui qui a franchi cette enceinte et qui a accès, donc qui peut avoir accès donc au sacré. Et ce sont ces mythes primordiaux, donc des premiers temps de l'humanité, de la création de l'univers, auxquels on peut avoir accès et participer. Pour symboliser cette relation au divin, en franc-maçonnerie, on utilise le terme de grand architecte de l'univers. Et ce grand architecte de l'univers, il faut d'abord l'approcher comme un symbole qui permette à des hommes et des femmes, bien sûr, venant de tout horizon et des traditions religieuses, de pouvoir avoir des points communs et de converger. C'est une approche anthropomorphique du divin, mais qu'il faut aborder au niveau non dogmatique, mais du symbole.
Est-ce que vous diriez que la franc-maçonnerie est méta-religieux dans la mesure où elle fait converger les différentes religions pour trouver une base symbolique qui permet de communiquer ?
Eh bien, les francs-maçons ont cette tendance à penser qu'il y a eu une tradition primordiale, bon, qui a souvent été exprimée par des auteurs comme René Guénon et autres. Et les religions n'étant que des formes particulières de cette tradition primordiale qui ont été qui se sont adaptés en fonction des civilisations. Mais là, c'est l'aspect exotérique qui habillait cette tradition primordiale. Et lorsque des hommes de différentes traditions religieuses se rencontrent, s'ils en restent au niveau exotérique, eh bien, il peut y avoir des conflits. Toutes ces guerres de religion que l'on a vues au cours des siècles et qui malheureusement peuvent continuer à exister sont dues à une approche qui n'est que exotérique de l'aspect justement des spiritualités. Alors que l'ésotérisme, et on trouve qu'il y a un noyau qui est commun au-delà de tous les aspects extérieurs. En fait, ce qui est important, c'est de transmettre une tradition qui permette à des hommes et des femmes de toutes venant de, comment dire, de chemins très, très différents, de se rencontrer et de pouvoir dialoguer ensemble et de se reconnaître comme sœurs et frères d'une même humanité. C'est ce caractère universel qui me semble est important en franc-maçonnerie. Nous venons d'horizons très différents, mais nous pouvons converger. Par exemple, vous voyez, dans l'une des loges dont je suis membre, eh bien, il y a des bouddhistes, il y a des hindouistes, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Il y a également des personnes qui se définissent comme agnostiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire de se définir comme agnostique? Si je me définis comme athée, donc si on prend le A, c'est un privatif, je suis privé de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'a priori je suis croyant ou incroyant. J'ai écarté la notion de Dieu. Si je suis agnostique, agnosos, donc je suis privé de connaissance. Là aussi, ce n'est pas le fait que je crois ou que je ne crois pas, mais je pense que c'est un domaine qui n'est pas directement abordable à la raison. Mais on peut aller au-delà de ces approches. Et en franc-maçonnerie, donc, ce principe d'un grand architecte de l'univers permet de fédérer. C'est-à-dire, je n'ai pas la même approche extérieure que toi, mais au-delà de ça, on peut être ensemble et essayer donc de... C'est plus qu'un groupe de réflexion. On constitue vraiment une entité. La loge, c'est une entité qui, au-delà de nos individualités, constitue vraiment un centre de réflexion et de rencontre.
Il y a dans votre démarche, me semble-t-il, Alain, trois caractéristiques de base. En tout cas, c'est ainsi que je ressens. La première, c'est cette idée de passage du visible à l'invisible, de ce que je vois au caché, etc. C'est une première idée. La seconde, me semble-t-il, c'est que votre vécu, car vous parlez avec votre vécu, vous conduit naturellement à faire la différence entre savoir et connaissance, ce qui est rare. Le savoir n'est pas la connaissance est autre chose que le savoir. Puis il y a une troisième idée qui aussi part de votre vécu, c'est que finalement, quelque part, vous dites qu'il y a trois dimensions auxquelles tout être humain est confronté. La dimension horizontale, celle du matériel, celle du vécu. La dimension verticale, qui est celle du sens. Et la dimension transversale, qu'est-ce que je fais des deux autres dimensions?
Absolument. Et pour ce qui est, si nous commençons donc à parler du savoir et de la connaissance, si vous voulez, le savoir est une base qui, au départ, est nécessaire pour mener vers la connaissance. Et quelle est la différence essentielle entre les deux? Eh bien, en partant du savoir, je vais l'intégrer à mon vécu, je vais expérimenter. C'est cette expérience qui va donc me modifier intérieurement. On parle de métanoïa, c'est un terme très beau, et qui donc, c'est une transformation. Et tant qu'il n'y a pas cette transformation, eh bien, on reste dans le savoir. Et ce savoir, eh bien, il y a un moment, il faut savoir, justement, l'abandonner. Il nous a emmenés jusqu'à un certain chemin, et ensuite, il faut donc passer dans le domaine de la connaissance. Mais lorsque l'on a fait cette expérience, ce n'est pas une expérience égoïste. Il faut transmettre. Et c'est là que peut se situer la difficulté. Il ne s'agit pas de transmettre en vrac, voilà, toutes les connaissances, et tu en fais ce que tu en veux. Non, du tout. Il y a tout un aspect, je dirais, de psychologie. C'est-à-dire, il faut essayer d'être en correspondance et lui faire ressentir. Et c'est de l'ordre du ressenti. Plus que de transmettre un savoir, il faut lui apprendre à ressentir les choses. On sort du monde du rationnel. Et donc, c'est le symbolisme qui, justement, permet de rentrer dans cette dimension. Alors, le symbolisme, me direz-vous, mais où cela vous mène? Eh bien, donc, il y a un certain nombre. Donc, on présente quelque chose de très physique. Par exemple, en maçonnerie, on présentera les premiers outils, un compas, une équerre, une règle. Et le tout, c'est que l'apprenti, eh bien, ma foi, est des images que ces outils lui suggèrent des images. Et que, doucement, que ces images, il les intègre à son mode de vie. Par exemple, le compas, ça sera son ouverture d'esprit. Lorsque je traite un sujet, je prends mon compas et je circonscris actuellement quel est mon savoir, quelles sont mes connaissances, quelles sont mes limites sur le sujet. Également, humilité, la tolérance. Puisqu'en fait, sur un sujet, j'ai un certain nombre d'approches, mais il y a d'autres approches qui ne sont pas les miennes et qui, en un premier temps, peuvent paraître en opposition. Est-ce que je suis capable d'accepter des propositions qui sont différentes des miennes, de les prendre en considération, de les analyser, de les respecter?
Merci beaucoup, Alain. Je dirais de vous que vous êtes un passeur pour le XXIe siècle. Vous savez réunir, vous savez transmettre, parce que vous avez voyagé, que vous avez compris quelque part que la vie n'est qu'un voyage. Sur les livres publiés par Libert Faber, sur le premier, je crois, Symbolisme et méthodologie en franc-maçonnerie, il y a de merveilleux symboles sur la couverture, comme sous toutes les couvertures, il y a le soleil d'un côté et la lune de l'autre. Merci. Si j'allais au Mexique, je pense que je retrouverais la lune complice du soleil, et ça serait un autre symbole, me semble-t-il.
Justement, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'archétypes que conçoivent les humains est limité. De ce fait-là, bien, on retrouve les mêmes symboles exprimés dans presque toutes les traditions. Vous voyez, au-delà des formes extérieures, ce qui est sous-tendu au niveau du symbole, on retrouve les mêmes valeurs.
Comme, encore une fois, passeur, vous nous montrez qu'à travers le singulier, il y a de l'universel.
Absolument.
Merci beaucoup, Alain, et je recommande ces livres que vous trouverez dans la note de synthèse avec toutes les références, de très très beaux livres, remarquablement imprimés et présentés, et qui vous feront découvrir tout un univers merveilleux, ouvert à la tolérance, ouvert au questionnement, et qui est une invitation au lecteur à s'interroger sur lui-même.
Je vous remercie.
Voilà, nous allons poursuivre l'exploration de Libert Faber dans la seconde partie avec Carlo, avec Alexandra, avec Katrina. Mais avant le début de la seconde partie, nous ferons un tout petit détour à Brignoles. Un bel exemple de tolérance et de courage, là où on s'attendait au contraire. Mais encore une fois, chers auditeurs, ne nous quittez pas. L'exploration de Libert Faber continue et vous allez voir un peu comment une maison d'édition a un projet fabuleux. Née en 2011, elle n'a que 3 ans, Carlo.
Oui, tout à fait.
Donc elle est encore au stade de l'enfance.
C'est l'enfance parce que c'est en plus le mois de juillet 2011.
Voilà,
donc on va fêter les 3 ans avec un résultat important, que l'on estime important.
Et dont vous allez nous parler dans un instant, d'accord?
Oui.
Merci. Chers auditeurs, continuons l'exploration de Libert Faber et pour y consacrer le maximum de temps, nous allons reporter à notre émission du vendredi prochain, le 30 mai, Vie Écriture. Je vous invite à cette émission qui va être assez exceptionnelle, la découverte de ce qui s'est fait à la journée du livre Gourmand à Brignoles le samedi 17 mai. Un versant goût amer et un versant goût aux accents de Provence, aux saveurs de Provence. Agora Côte d'Azur veut rendre hommage à tout le public et à toutes les associations qui ont contribué à cette réussite assez extraordinaire. Revenons à Libert Faber. Alors nous allons commencer par vous, Alexandra. C'est pas votre prénom. Alors on commence par vous, Alexandra. Pardonnez-moi. Vous voyagez et vous naviguez entre la Laponie, la Finlande. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ben, j'ai voulu tracer une sorte de parcours à travers les regards des voyageurs italiens et français qui ont visité la Laponie et la Finlande à partir du 15e siècle jusqu'à la fin du 19e. Je commence, disons, par une date fétiche pour moi, il s'agit de 1431, et qui correspond à un voyage, disons, involontaire, parce que c'est un naufrage d'un navire marchand vénitien qui... donc fait naufrage sur une des îles Lofoten. Et c'est donc, disons, la première rencontre entre les Grands Sud, Imaginons ce que c'était Venise au XVe siècle, une puissance commerciale, économique, culturelle, et ce qu'on peut trouver, ce que ces marins peuvent trouver sur une des îles Lofoten, absolument les néons du poisson séché et rien d'autre. Mais à part cette première rencontre entre deux cultures complètement différentes, il y a aussi l'importance que les récits qui sortent de ce naufrage, écrits par Pietro Querini, qui était le propriétaire de ce navire, représentent un premier exemple de récit de voyage, puisque Querini était un marchand tout à fait personnel, disons, il perd sa fortune, mais il ne doit pas rendre compte à la République de Venise. Donc il décide d'écrire ce récit pour transmettre à la postérité de sa famille son voyage extraordinaire dans un pays totalement différent de sa culture. Et à partir de cela, j'ai établi un parcours à travers les 17e, 18e et 19e siècles, avec des noms plutôt connus, par exemple Jean-François Regnard, qui est connu comme dramaturge, mais qui, en 1681, a fait un voyage en Laponie et dont le récit de voyage sera cité jusqu'à la fin du 19e siècle comme exemple, parfois contesté, mais quand même toujours très présent parmi ses successeurs. Bernardin de Saint-Pierre, par exemple, que nous connaissons tous comme l'auteur de Paul et Virginie, donc les chanteurs de l'océan Indien, et que en 1763 était au service des Catherine II de Russie, envoyé en Finlande, donc à Rely, pour établir un plan de défense de la Russie en cas d'attaque suédoise.
Alors, si je vous posais la question suivante, en quoi la lecture de votre livre permet aujourd'hui aux voyageurs de mieux voyager?
Ben, on prend des exemples, disons, à travers ces récits de voyage. On trouve que la Laponie et la Finlande restent quand même des pays qui ont gardé leur tradition et qu'on peut encore retrouver aujourd'hui. On en a l'exemple, par exemple, dans les voyages de la fin du 19e siècle qui sont très proches de notre culture d'aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, quand on visite la Laponie, on retrouve certaines traditions toujours enracinées.
En dehors de ces deux pays, qu'est-ce qui fait que je puisse acheter ce livre, moi qui voyage? Qu'est-ce qui, selon vous, me donnerait le goût d'acheter votre livre pour mieux voyager?
Ben, c'est les goûts pour l'exotisme, pour une culture un peu encore aujourd'hui trop inconnue et qui pourtant est très intéressante. Par exemple, par rapport aux traditions, nous connaissons toutes les traditions de Noël, le Père Noël, les sapins de Noël. Et ce sont des traditions qui viennent de ces pays nordiques, pas seulement parce qu'aujourd'hui la maison du Papa Noël est en Finlande, mais parce que ça remonte à l'époque ancestrale.
Tout à fait. Et je pense, enfin moi personnellement, j'y ai vu aussi le regard de ces voyageurs qui est très singulier et qui nous apprend à nous questionner sur notre propre regard.
Bien sûr.
Voyage en Laponie et en Finlande, 1431-1898, un livre d'Alessandra, remarquable, un très beau cadeau à faire. Maintenant, passons à une autre personne, auteur chez vous, Carlo, Katrina. Alors Katrina, Madame est servie. Alors d'où vient cette expression et qu'est-ce que vous nous dites pour avoir envie qu'un homme ou une femme puisse offrir son livre à un homme ou une femme?
Madame est servie est un livre qui est né pour faire aimer l'art de recevoir. Et comme je dis toujours, pour aimer l'art de recevoir, pour charmer nos invités. Madame est servie, c'est une phrase très importante dans la tradition historique parce que c'était la phrase que les majordomes disaient à la maîtresse de maison, normalement, avant de passer à table. Et c'est à ce moment que le repas, le banquet pouvait commencer. Et moi, j'ai voulu, avec ce livre, inviter mes lecteurs à un banquet. En effet, le livre est fait par plusieurs parties. Et dans toutes les parties, il y a un fil rouge qui, au niveau graphique sur le livre, est représenté par une petite pivoine qui accompagne les lecteurs au fil des pages, mais qui en réalité représente les fils rouges les plus importants dans les banquets, c'est-à-dire l'art de recevoir est la capacité qu'on a de donner un moment de bonheur à nos invités. Et à ce propos, je voulais citer une phrase de Brillant Savarin qui, dans sa Physiologie du goût, disait « Convivier quelqu'un signifie s'occuper de son bonheur pendant le temps qui passe sous nos toits. Sous nos toits. » C'est-à-dire que cette phrase met l'accent sur le côté émotionnel de l'art de recevoir. Donc, organiser une réception, petite ou grande, signifie vraiment partager du bonheur, signifie donner un moment de relax, un moment de sérénité à nos invités. Voici le significat que j'ai voulu donner à mon livre.
Vous avez un passage à nous lire, éventuellement?
Oui, alors... C'est difficile à choisir.
Bien sûr.
Un petit extrait. J'ai fait un petit sommaire du livre, comme ça vous aurez une idée plus complète.
Bien.
Alors, la première partie est dédiée à l'histoire de l'art de recevoir. Et j'ai commencé à parler de l'histoire de l'art de recevoir à partir du Moyen-Âge, parce qu'en ce moment, on peut dire qu'on commence avec les banquets une décodification. Donc, on peut dire que l'art de recevoir est né au Moyen-Âge. Elle s'affirme pendant la Renaissance italienne avec la recherche de l'harmonie et du beau, s'affirme à la cour française et devient moderne à l'époque de la bourgeoisie. La deuxième partie est dédiée au rôle de la maîtresse de maison, parce que, comme disait une femme italienne, la maîtresse de maison doit arriver au moment où elle ouvre la porte aux invités, elle doit être reposée et reposante. Et pour être reposée et reposante, elle a une seule manière, qui est de s'organiser avant. Donc la deuxième partie du livre est dédiée aux conseils pour la maîtresse de maison, pour qu'elle arrive à s'organiser, soit elle doit organiser une petite réception, ainsi qu'une grande réception comme un mariage, comme un baptême ou une cérémonie importante. Et la troisième partie, l'esthétique de la table, donc la décoration. Et moi, je m'occupe de l'organisation et de décoration des mariages. Et la première des choses qu'on doit imaginer quand on décide d'organiser une réception, c'est l'atmosphère qu'on veut créer. Parce que à travers l'atmosphère, on donne des émotions. Et sont les émotions, le souvenir que les invités amènent à la maison quand la réception est terminée. Donc, la décoration a une partie très importante. Soit dans l'histoire et soit dans toutes les réceptions qu'on organise encore aujourd'hui. Quatrième partie dédiée au symbolisme des couleurs, parce que les couleurs sont des ondes électromagnétiques, donc il arrive à influencer les émotions des invités. Et comme disait Plotin, le premier objet de la vue est la couleur. Donc, quand les invités rentrent dans une salle à manger, la première des choses qu'ils voient est la couleur. Et si on veut vraiment gâter nos invités, on fera une décoration sur le bleu. Le bleu est la couleur de la tendresse, du relax. Et donc, c'est la meilleure façon de recevoir des invités pour donner ces fameux moments de bonheur. La dernière partie, celle que j'aime définir le dessert, parce qu'elle arrive comme dans un menu, arrive le dessert, donc tout le monde aime, et c'est la partie plus amusante, est dédiée aux photos et toute, disons, la description des réceptions que j'ai organisées pendant ma vie professionnelle.
Je pense que vous avez remarquablement résumé ce livre qui est écrit en français et en
bilingue.
Anglais, bilingue, comme celui dont nous parlions avant à propos des voyages. Deux livres remarquablement illustrés, remarquablement imprimés, de vrais cadeaux. Et là, en plus, Katrina, vous nous montrez votre savoir-faire pour l'avoir écrit, car ça n'a pas été écrit par n'importe qui. On sent chez vous, j'allais dire, toute cette capacité extraordinaire à accueillir, et les mots forts que vous avez prononcés, l'art de recevoir, offrir du bonheur, climat, les émotions, je crois que ces mots résonnent encore et résonneront bien au-delà de l'émission dans l'oreille de nos auditeurs. Auditrices, si vous voulez être une femme un peu plus parfaite, je vous conseille ce livre. Auditeurs, si vous voulez bien choisir votre femme ou si vous voulez lui offrir cette capacité de s'améliorer et de découvrir une femme que vous ne connaissez pas encore, offrez-lui ce livre. Voilà. Mais Carlo, vous avez plein de livres parce qu'il y a 11 entrées dans votre collection. Alors d'abord, Liber Faber, pourquoi ce titre ?
Quand on a décidé de fonder la maison d'édition, moi avec mes associés, on a pensé de donner un nom compréhensible par tous les peuples d'Europe. Donc on a décidé, est-ce qu'un nom en français, moi je suis francophone, mais quelqu'un m'a dit non, en anglais non plus, italien, espagnol, alors on a pensé vraiment de créer un nom en latin, qui est la, un peu aux sources, la langue aux sources de l'Europe, et à laquelle s'inspirent toutes nos langues néolatines. Et alors Liber Faber, pourquoi Liber Faber ? Parce que c'est un livre qui bâtit, qui construit. Construit quoi ? Construit la connaissance. La connaissance qui n'est pas le savoir pur et simple, mais enrichi d'une conscience. La conscience déjà qu'il y a quelque chose d'intéressant dans différentes cultures, différentes langues, donc ça vaut la peine de le traduire et porter à la connaissance des autres. C'est pour ça que la plus grande partie de nos livres sont bilingues. On a une grande partie qui sont italien-français, on a même un anglais-français, dont on a acheté les droits d'une maison d'édition italienne. On a, comme on a vu pour les enfants, 4 langues. Et un des projets est vraiment de traduire la plus grande partie de nos auteurs qui nous soupçonnent qu'ils soient d'intérêt pour un autre pays. Les livres en français pour les Italiens et vice-versa. Ça, c'est un de nos projets. En plus, on a un projet, une vraie collection en égyptologie, jusqu'à arriver même un livre sur l'égyptomanie, qui est quelque chose de vraiment de curieux, mais qui a existé, existe encore aujourd'hui. Tous nos livres se basent un peu sur le fait qu'ils sont des recherches, donc sont des essais. On a des romans historiques, alors la base historique est véritable, simplement l'auteur a mis une histoire inventée. Mais la base historique est réelle, donc on respecte vraiment les faits de ce qui s'est passé. Une autre, donc, des aspects un peu spécifiques de notre maison d'édition, que nous avons mis à point un système de lecture sur support électronique. Le support électronique peut être n'importe quel, donc on n'est pas obligé d'acheter un outil spécifique. On peut utiliser tous les PC et tous les tablettes. Par contre, sa protection des droits des auteurs, c'est impossible d'imprimer le livre, de le graver sur un CD ou sur une clé USB. Donc c'est bien protégé et protège aussi, comme je disais, les droits. Et les droits aussi d'autres éditeurs, parce que nous avons mis à disposition des collègues ce système. Moi, je pense que la connaissance, c'est quelque chose qu'il faut diffuser. On ne peut pas la garder pour nous seulement. Donc, on l'a mis à disposition et on est déjà 5 éditeurs qui utilisent notre plateforme et ce système. Ce système qui est parallèle au livre papier, qui existera toujours, sont pas l'un contre l'autre, sont un à côté de l'autre. En plus, je pense, ça c'est ma pensée personnelle, qu'il faut jamais faire quelque chose contre, mais il faut toujours agir pour. Quand on fait quelque chose contre, on n'aboutit pas. Ça marche quand on fait quelque chose pour quelqu'un, pour quelque chose, un idéal.
Un idéal. Alors justement, on pourrait prolonger parce qu'il y a chez vous, Carlo, un véritable idéal, il y a un véritable projet. On pourrait, je pense, consacrer une émission d'une heure encore à tous les projets dont on n'a pas parlé ce soir, à la formation autour de l'édition, etc. Je recommande aux auditeurs d'aller voir le site www.liberfaber.com. C'est facile à retenir, on le mettra dans la note de synthèse. Allez voir et vous aurez désormais une autre image de Monaco. Il y a non seulement un prince, il y a non seulement une princesse, mais il y a une maison d'édition assez extraordinaire tournée vers l'Europe. souvenez-vous, désormais, Monaco égale Libère Faber. Merci à Carlo, merci à Alain, que nous avons eu en différé, à Katrina et à Alessandra, qui sont dans ce studio. Merci pour vos livres, qui sont vraiment très beaux, très originaux, et qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres éditeurs, chez d'autres éditeurs.